Ok, je vous donne encore quelques petites ségoulottes supplémentaires par rapport à ce qu'on a dit hier. On va commencer par contre le Aynara. Le Aynara, est-ce que c'est une chose qui existe? Oui. Est-ce qu'il faut se prendre la tête? Non. C'est-à-dire que c'est marqué, plus quelqu'un y prend en considération le Aynara, plus il devient sensible au Aynara. Il ne faut pas être complètement insouciant aussi. Mais pas non plus rentrer dans la psychose, d'accord? Dès que... C'est bien quand on fait un compliment, on dit Blainara, on dit Ben Parat Yosef, c'est bien de dire ainsi. Maintenant, si quelqu'un pense qu'il a sur lui du Aynara, il y a un truc à faire. Aujourd'hui, il y a une dame qui fait cela ici à Jérusalem, elle prend une somme d'argent pour le faire, mais n'importe qui peut le faire. J'ai appris ça de mon Chavruta, parce qu'une fois j'ai eu besoin, je vous raconterai l'histoire tout de suite. Alors, c'est tout bête. Il faut prendre du plomb à l'état massif, du plomb quoi, du plomb. Aller dans une quincaillerie et faire chauffer le plomb. La casserole, après, elle est capoute, d'accord, pour une casserole pas trop, on n'a pas trop besoin ou qu'on pourra réutiliser pour refaire ses opérations de plomb. Et faire chauffer donc le plomb rapidement, il fond, il devient liquide. Et prendre la casserole, mettre au-dessus de la personne qui souffre du Aynara. Si elle n'est pas là, on peut faire sans la personne et dire la phrase suivante. Que par ce plomb soit ôté tout le mauvais œil qui a vu, qui a observé, qui a envié un tel fils de un tel.
En français?
En français. Comme je dis maintenant, c'est une traduction littérale. Et tu prends après ce plomb-là et tu le verses dans un récipient d'eau. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets du plomb dans de l'eau? Eh bien, le plomb se solidifie d'un coup. Maintenant, il va se solidifier en petites boules. Et toutes les boules, c'est les grosses boules, les petites boules, tout ça, toutes ces boules, c'est du Aynara, c'est des yeux. Tu refais l'opération une deuxième fois. Et tu verses. De nouveau, ça va faire des yeux. Ou déjà, peut-être pas. Au bout de 3, 4, 5, 6 fois, normalement, au bout d'un moment, ça ne fait plus aucun œil. C'est-à-dire que tout le mauvais œil, il est parti. L'expérience vécue, j'étais une fois en séminaire, très réussi. Et... À la fin du séminaire, il y a un type qui parle et qui me fait des éloges de là jusqu'à l'Everest, d'accord? Et tatati, tatata, tatata. Il y avait là-bas un rabbin qui était venu aussi le soir d'avant, aussi très très puissant comme truc, il a vu, je vois qu'il regardait un peu jaloux comme ça, il était présent aussi. Bon, je pense qu'il a dû me regarder un peu de travers. Après le séminaire, je suis exténué. C'est très très fatigant, c'est pendant 48 heures comme ça, on se donne à fond. Et je vais dormir chez un ami dans la même ville. Le lendemain matin, je pars et j'ai une indigestion, une gastro. Donc c'était le lundi matin. J'arrive en Israël déjà ratatiné, déjà d'habitude à cause du voyage et du séminaire, je suis déjà ratatiné pendant 2-3 jours, je ne sors pas de chez moi. Là, j'étais bloqué au lit jusqu'à vendredi matin. D'habitude, je suis affamé après un séminaire, je ne peux rien manger parce que je suis complètement malade. Donc je suis très très affaibli. Vendredi matin, je sors de chez moi, je reviens l'après-midi, fièvre, angine. Shabbat, dimanche soir vers 11h du soir, je sens que je suis en train de... Je m'enfonce dans le lit, je suis à bout de force, complètement ratatiné, vraiment, j'en peux plus. Et moi, je suis très peu genre Aynara, machin, truc, ça. Bon, j'ai appelé mon Chavruta, mon copain d'études, écoute, Avishai, genre... Je crois qu'on m'a fait de Aynara, fais-moi le truc, parce que ça ne va plus du tout. C'était 11h du soir, je raccroche. 10 minutes après, je me sens déjà mieux. Je ne suis pas guéri, mais je sens que j'ai... Alors, est-ce que c'est psychosomatique? Je ne sais pas. En tout cas, 10 minutes après, je me sens déjà beaucoup mieux. Et puis bon, 2-3 jours après, levé, terminé, tout allait très bien. Le lendemain matin, il me raconte, il m'appelle. Écoute, j'ai fait 28 fois. Il y avait encore des yeux. J'en ai ras le bol, j'ai arrêté. 28 fois il a fait, il y avait encore des yeux. Donc j'avais une couche comme ça. Et depuis Baruch HaShem, j'ai plus besoin de refaire ça. Bon, ça c'est une combine qui marche très bien pour ôter le Aynara. Les gens qui sont sensibles peuvent le faire assez souvent. Les gens qui sont moins sensibles, donc pas besoin de le faire trop souvent. Aussi un truc que la Ravenson Abashul m'a dit, c'est un truc archi connu, mais un grand de la Torah m'a dit, c'est pas le truc des boutiques orientales, d'accord, je parle maintenant de quelque chose de sérieux, de grand de Torah, il m'a dit, contre l'Aynara, c'est bien de mettre à la maison une main, d'accord, c'est connu, la main comme ça, tu mets une main, une petite main comme ça, voilà. Ceux qui, moi je n'en ai pas mis chez moi à la maison, mais voilà, ceux qui aiment bien cela et qui sont sensibles, Ça, il y a un hercher, il y a un hercher du Rav Ben Sion. Poisson, j'ai pas entendu, les yeux, les machins, j'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, je vous dis. Du Rav Ben Sion Abachalou, une autre sougoula maintenant, rien à voir, contre le vol, pour pas se faire cambrioler. C'est un truc que j'ai vu chez le Rav Ben Sion Abachalou. Depuis, moi, je le fais aussi chez moi à la maison, chaque année. Le loulav avec lequel tu as fait la mitzvah de loulav. Un loulav kasher, comme il faut bien. Après, normalement, d'après la halakha, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien de le brûler dans la srefat hametz. Mais là, tu vas faire différemment, tu vas le garder, et après la fête, tu le mets au-dessus de la porte de l'entrée. Chez moi, j'ai mis deux vis, une vis comme ça, pour ceux qui viennent chez eux. Personne ne voit rien, parce que les gens ne font pas attention, mais tu mets deux vis comme ça, tu poses le loulav dessus comme ça, ou tu le scotches, enfin quelque chose qui soit solide, et c'est protection de la maison, ce goulav pour passer au camp de Bahou Hachem jusqu'à aujourd'hui, blainara, blainara, blainara. Oh, tu peux laisser le même, moi je change. Voilà, je change. La vérité, c'est l'année passée, j'en avais un très beau, très grand comme ça. Cette année, j'en ai mis le deuxième, j'ai laissé les deux. Maintenant, j'en ai deux comme ça pour être. Hein? Ah, fais pas attention, les gens ne font pas trop attention. Une sgoula qui concerne, que je tiens aussi de Rav Ben Sion Abba Shaoul, pour, qui a à voir avec Pessah maintenant, l'afikoman. Garder un petit peu de l'afikoman pour Shmira. C'est une protection, c'est une sgoula de protection. D'accord? Vous gardez un peu d'afikoman sur vous, à la maison. Moi, j'ai encore afikoman que Rav Ben Sion m'avait donné de sa propre afikoman, j'ai mis dans un petit tiroir. C'est une sgoula. C'est une sgoula. Sgoula, ça veut dire ça a une capacité de protection. Sgoula, je rappelle, le terme signifie, c'est pas un truc qui est passe-partout, c'est pas absolu. C'est quelque chose qui est irrationnel, qui a des capacités d'aide dans ce sens-là. Mais faut pas prendre les choses à leur juste proportion, pas tomber dans la l'hystérie des trucs magiques. D'accord? C'est tout. Nous sommes des juifs, nous sommes branchés avec Dieu. La meilleure sgoula, c'est la prière. Fais le Shulchan Aruch, sois proche de Dieu, c'est mieux que toutes les combines. Parce que ça marche. Alors que les combines, ça marche pas toujours. La combine pour devenir riche. Alors, la combine la plus puissante, et c'est certain qu'on devient riche, c'est certain, c'est donner en tzedaka un cinquième de ses bénéfices. C'est-à-dire après que tu as payé tout ce que tu as. Non, après que tu as payé les charges de ton travail, d'accord? Le bénéfice, combien ça t'a coûté l'affaire, combien. Tu as investi, tu fais toutes les déductions, combien ça t'a rapporté, ce qui te reste le bénéfice net, de ça tu prends un cinquième, Chomesh. Il est interdit de donner plus d'un cinquième en tzedaka. Il est bien de donner un dixième. C'est marqué que celui qui donne le dixième ne sera pas pauvre, mais celui qui donne le cinquième sera riche.
Quand ? Ça prend du temps ?
Alors, je ne sais pas. C'est pas marqué quand, mais c'est marqué Baronin Bazé. On peut éprouver Dieu à ce propos. Tu peux l'éprouver. Du jus donné, ça doit marcher. Maintenant, riche, c'est pas forcément quelqu'un qui a des millions. Riche, tu es bien, tu n'es pas en manque. Ça, c'est riche. Aujourd'hui, c'est très riche. Parce que partout où on tourne la tête, on voit la cata. T'as des gens très riches, mais ça fait une maladie terrible. L'autre, sa femme, lui fait l'enfer. L'autre, son fils, est drogué, hein, je sais pas quoi. Ça manque pas des affaires tordues dans le monde. D'accord? Ça, c'est la meilleure richesse. C'est pas forcément combien tu as dans la banque en Suisse. Ça, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est que tu sois bien. Ça, c'est la plus grande richesse qu'il puisse y avoir.
On peut s'endetter pour ça,
enfin, non.
Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de prendre...
Ils font pas... Ça, c'est ridicule. On va...
Non, c'est okay. Sert à manger.
Oui. Sert à manger. Alors,
moins pour avoir
alors, il n'est pas tout. Il n'est pas obligé... de quelqu'un qui n'a pas de quoi donner, que s'il va donner, il rentre en situation de pauvreté où il a besoin des autres pour être nourri, donc il n'est pas tout désengagé de l'obligation de donner à Tzedaka. C'est clair. Maintenant, s'il veut, et rentrer comme ça en pitachon, je ne pense pas qu'il faudrait emprunter pour ça.
Non, il mange moins ce mois-ci.
Ouais, peut-être. Essaye, tu me diras si ça marche. Si ça ne marche pas.
Je viens...
Non, s'il doit maintenant reçoit la tzedaka des autres gens pour pouvoir maintenant donner le chomesh, c'est idiot. Mais si maintenant, il va un peu, au lieu de manger de la viande tous les 3 jours, il mange une tous les 4 jours. Si il va moins acheter de dessert, on peut s'arranger un peu comme ça, on peut s'arranger pour pouvoir donner cet akar au Dieu, c'est quelque chose de extraordinaire. C'est une question de bitachon. Une fois, j'ai posé la question à un rabbin, je demande à quelqu'un, justement, est-ce qu'il est pas tout. Mais au point de vue du din, au point de vue de la loi stricte, quelqu'un qui ne peut pas donner, il ne peut pas donner, terminé. Ah, il ne donne pas, il dit, il peut donner s'il a du bitachon, s'il a de la foi. Il faut de la foi en Dieu, il faut croire que ça va marcher, ok, dans ce cas-là, ça peut... Pardon ? Je n'ai pas compris.
Ceux qui n'ont pas, ils sont faits pour recevoir, pas pour donner. Ça, je veux dire.
Tout avec proportion. Si quelqu'un maintenant, il va minimiser un peu des goûts de luxe, de quoi on parle, d'accord ? Mais néanmoins, aujourd'hui, la situation que tu as dans une famille qu'on va appeler pauvre en Israël, elle est tout à fait bonne par rapport à la situation qu'il y avait il y a 50 ans dans une famille moyenne en Israël. Je n'ai pas mangé de la viande. J'ai mangé de la viande à Yom Tov. D'accord ? Ceux qui avaient un poulet pour Shabbat, ils étaient contents. En semaine, ça n'existait pas. C'était la situation il y a 30-40 ans, encore plus il y a 50 ans en Israël, pour la majorité de la population. Donc les critères ont beaucoup changé. Donc si quelqu'un maintenant peut, on est beaucoup plus faible aussi, donc si quelqu'un peut maintenant un peu réduire pour donner un peu de tzedaka, je suis convaincu que cette tzedaka aux yeux de Dieu, elle a une valeur beaucoup plus grande que, les millions que donne le milliardaire. Et je pense que c'est logique ce que je dis. Deuxième, bien sûr, il y a des choses aussi qui empêchent la richesse. Un truc qui empêche la richesse, le manque de kavod à sa femme. D'accord ? Il faut honorer sa femme. Quand on honore sa femme, parce que la femme c'est la shrina. D'accord ? Important, ça met la richesse. Et Birkat Hamazon, non seulement avec intention, mais en joie. C'est marqué ceux qui disent Birkat Hamazon avec joie, on lui donne sa parnassa, on lui donne son gagne-pain avec joie.
C'est quoi avec
joie ? À part ça, il y a des choses aussi qui peuvent empêcher. Par exemple, marcher sur des miettes de pain, ça mène à la pauvreté. Faire attention, moi je suis un fou à la maison, d'accord ? Dès qu'il y a des miettes de pain, le balai. D'accord ?
Celui qui a fait ça, il décide de les émietter, de les jeter. Est-ce qu'en même temps qu'il fait la mitzvah, il n'est pas en train de s'appauvrir ?
Non, parce qu'il y a une mitzvah de jeter le hametz à Pessah. Donc quand il y a une mitzvah, tu n'as pas le droit de jeter du pain, c'est baltachrit. C'est un interdit de la Torah, la nourriture qui est consommable, la jeter comme ça pour rien, c'est baltachrit, c'est un lave de horaïta. Maintenant, si la Torah vient et me dit maintenant, jette tes pâtes, jette ton pain, la Torah m'a dit, ok. Tachbitou, c'est obligatoire.
Et si je l'ai pris, c'est la possibilité entre brûler et jeter. Celui qui prend le minag de jeter.
Le minag est de brûler de toute façon, oui. Aujourd'hui. Il faut brûler. C'est mieux de brûler. C'est beaucoup mieux de brûler. Si on n'a pas le choix, on fera autrement. Maintenant, ce qui est bien de faire, pour ne pas faire baltacherit, c'est que tu finis tes pâtes intelligemment avant Pessah, pas venir avec 10 kilos de pâtes et jeter dans le feu la veille de Pessah, c'est dommage. D'accord ? La bouteille de whisky. Normalement, après t'as invité le Bahroum chez toi à Pourim, il n'y a plus rien. D'accord ? Ça ne sert à rien de racheter une nouvelle bouteille de whisky avant Pessah, si tu as une consommation normale de whisky. D'accord ? Faire les choses intelligemment.
C'est quoi le Birkat avec joie ?
Hein ? Avec joie. Que tu prends les paroles maintenant du Birkat Hamazon, c'est un chant à Dieu de remerciement pour le fait qu'il nous donne notre parnassa, notre nourriture, etc. Et que tu es joyeux, tu es content, tu reconnais ça. Tu reconnais la bonté de Dieu et tu en es conscient. Et tu dis avec joie, Dieu, elle, Zan, le Dieu qui nous nourrit, Akol, nourrit tout le monde, etc. Elle nous donne, etc., etc. Elle nous donne la terre d'Israël, etc. Toutes ces choses-là, il y a de quoi...
À comprendre, dans le sens qu'on voit parmi les pauvres dans le monde, Dieu te dit, tu nourris, même celui qui n'a pas...
Mais excuse-moi, le Saint Charim, il dit... Que le pauvre comme le riche peut voir la main de Dieu quotidienne. Que le pauvre, il pourrait mourir de faim. Et tu vois qu'il ne meurt pas de faim, que toujours en dernière seconde, il y a quelque chose qui se passe et qui s'arrange. Et demande au pauvre, tu verras. Il s'arrange. On ne connaît pas des gens qui meurent de faim. Qui ont faim de temps en temps. Hélas, il y en a. Mais tu demandes à ces gens-là, est-ce qu'ils voient la main de Dieu ? Tu diras, mais c'est extraordinaire la main de Dieu comme on la voit. Beaucoup plus que celui qui est riche. Parce qu'ils sont toujours en demande. Sans vouloir minimiser rien du tout de la condition difficile de la pauvreté, qui est difficile. Et là, on en voit beaucoup autour de nous, à Shem Yishmor, que Dieu les aide, que Dieu nous aide tous. Ken.
Par rapport à ce qui est fixé à Rosh Hashanah et
par exemple, pour des tikkun qu'on doit faire dans la Torah, etc. Ça marche les...
Alors, tu m'as posé la question déjà plusieurs fois. Alors, je vais répéter. À Rosh Hashanah, on fixe combien tu auras d'argent, c'est une arborescence. Ça veut dire, si tu bides Amazon, tu recevras 1100 euros par mois. Si tu ne dis pas avec Amazon comme il faut, tu n'auras que 800 euros. Si tu l'as ce goût-là, tu auras 800, tu auras 3 euros en plus. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tout en fonction. Mais les différentes options sont fixées à Rosh Hashanah. Quelle option tu prendras, ça dépend de toi durant l'année. Il y a un truc que je ne sais pas exactement comment on fait, mais je vous le dis en gros comment on le fait. C'est un problème du Rav Frida. Le Rav Frida, il a écrit un bouquin qui s'appelle Magal Tov. Magal Tov, il raconte ses péripéties. Il a fait deux livres, il a fait deux voyages à l'étranger. Il est né à Yerushalayim et il est parti faire une collecte de fonds pour la terre d'Israël. C'est pas comme aujourd'hui, on partait une ou deux semaines, ou trois semaines, ou un mois maximum, il partait 5-6 ans, d'accord? Il a fait deux voyages comme ça, il s'est passé de 10 ans, il a fait un journal. Il raconte qu'il était en Tunisie, il était en Italie, en Angleterre, en Allemagne, il a rencontré Marie-Antoinette, il a même sauvé un gosse qui se noyait dans la Seine, etc. Bon, il raconte toutes ces histoires-là. Et il raconte que lors de son deuxième voyage, il a pris, donc il est parti avec son serviteur, ils sont partis à Dodane, et tout à coup, il a vu qu'il est poursuivi par, pas Ali Baba, mais Abu Ghosh, d'accord? C'est une version israélienne de Ali Baba. C'est ici, à l'entrée de Yerushalayim, il y a un village arabe, à 10 minutes de Yerushalayim, Abu Ghosh, d'accord? Près d'où il habite notre ami là. Abu Ghosh, juste actuellement un village arabe, aujourd'hui c'est un village arabe chrétien, à l'époque c'était un village arabe musulman, avec le cheikh du village qui s'appelait Abu Ghosh. Abu Ghosh, c'est 200 brigands à la poursuite du Rav Frida et de son serviteur. Alors Rav Frida a dit, j'ai rappelé le nom pour être Roé Venonire. Roé voit et n'est pas vu. En deux mots, devenir l'homme invisible. Alors comment on fait ça? Lot habite la ville de Sodome et Gomorre. Viennent les deux anges pour le sauver, lui et sa famille. Lorsque les habitants de Sodome apprennent que Lot a osé faire l'hospitalité à deux étrangers, toute la ville entoure la maison de Lot. Lot leur propose ses deux filles. Et les Sodomiens disent, nous on veut les deux hommes. Alors les deux hommes, les deux anges, ont sorti leurs mains, ont fait rentrer Lot à l'intérieur, et ont fermé la porte, et le verset nous dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Les hommes étendirent leurs mains, firent entrer Lot vers eux dans la maison, et la porte, ils fermèrent. Bon, c'est écrit en littéral. Et les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les frappèrent d'aveuglement, du petit jusqu'au grand, ils se fatiguèrent à trouver l'entrée. C'est écrit de façon littérale extrêmement mauvaise. En bon français, ça serait les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils frappèrent, donc les anges frappèrent d'aveuglement, les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, du plus petit jusqu'au plus grand, et ils ne purent trouver, ils eurent de la peine, enfin, ils se fatiguèrent à trouver l'entrée sans la trouver. C'est pas mieux comme traduction. Bon. En hébreu, il faut lire ce verset 7 fois à l'endroit et à l'envers. Ve'et anashim asher petach habayit, hiku basanverim, mikaton vad gadol, va'il'u lemsoa patach. C'est donc le coup. Le Ramban, Nahmani, il explique comme ça, que chaque verset de la Torah, il a une capacité, avec certains noms de Dieu qu'il faut rajouter, à agir dans le même sens. Ici, on parle maintenant de frapper des gens d'aveuglement, ce que voulait faire le Rav Frida, rendre Abu Ghosh et ses 200 voleurs aveugles. Alors toi, tu dis donc ce verset-là, et tu le dis à l'endroit, à l'envers. Je vous fais l'expérience, comment ça fait. Vet anashim asher petach habayit hiku basanverim mikaton vad gadol va'il'u lemsoa patach ha'patach lemsoa va'il'u gadol va'ad mikaton basanverim hiku habayit petach asher ha'anashim ve'et. Et comme ça, tu fais cette fois, et après tu rappelles un nom de Dieu. Alors le nom de Dieu, il est les lettres. Je connais les lettres, mais je connais pas les points. Donc de toute façon, ça sert à rien. Voilà. Il y avait un très grand maguide de Jérusalem, qui c'est d'ailleurs s'est marié avec une femme française, qui aujourd'hui lui, il est décédé. On appelle le Rav Yudelevitch. Une fois, j'ai vu un Indrasha, il disait, j'ai déménagé maintenant et je suis devenu Roé Benoneré, l'homme invisible, qui peut voir sans être vu. Pourquoi? Parce que chez lui, à la maison, avant, il avait une porte normale. Maintenant, il a une porte avec un petit trou. il peut voir sans être vu. Le Rav qui m'a enseigné ce truc-là, il m'a dit que si on n'a pas dit Baruch Hu le matin, Baruch Hu Hashem Mvorach, le premier, celui de Yotzer, alors il nous manque une partie de Neshama qui doit rentrer par notre nez, et lorsqu'on fait ce truc-là pour devenir invisible, le nez reste visible. Donc si quelqu'un se cache dans la chambre... Ça m'a rappelé un autre truc... Aussi pour dire des versets cette fois à l'endroit, à l'envers, là il faut le Tehilim. Voilà, alors c'est dans le Tehilim 57, verset 9. C'est David Ameler. C'est le verset que disait David Ameler pour se réveiller. David Ameler, il somnolait jusqu'à minuit et dès minuit il se renforçait pour dire la Torah jusqu'au petit matin. Et à minuit il disait ce verset pour se réveiller. Oura Kevodi, réveille-toi Kevodi, mon honneur. Il parlait à son âme. Oura Hanevel, réveille-toi Hanevel, l'harpe, Vechinor et le violon, Haïra Shachar, je veux réveiller moi, l'aube. On dit cette fois ce verset à l'endroit et à l'envers. Comme ça. Oura Chevodi, Oura Hanevel, Vechinor, Haïra Shachar, Shachar, Haïra, Vechinor, Hanevel, Oura Chevodi, Oura. Ça c'est une fois. Après deuxième fois, Oura Chevodi, etc. C'est plus long que de mettre le réveil matin. Et on dit, Dieu, je veux me réveiller demain matin à 6h14, s'il te plaît. Et on va dormir, 6h14, ping!
Vous avez testé?
Ouais, j'ai testé. Ça marche des fois. C'est une sgoula. C'est une sgoula. Si j'en avais eu un prendre, je ne ferais pas comme ça. Je préfère mettre le réveil matin plutôt que ce truc-là.
C'est quel...
C'est le 57. Une sgoula extraordinaire du Rav Israël Misalant. Pour arriver à un endroit qu'on cherche. On cherche un endroit, on ne sait pas comment y arriver. C'est un truc pour rêver sans jamais se tromper. L'histoire, Rav Israël Misalant une fois devait aller dans une ville qu'il ne connaissait pas, il avait rendez-vous avec ses élèves, un certain Beth Midrash. Il est arrivé, il le trouve facilement, il dit « je ne me suis jamais trompé, j'ai une sgoula pour toujours arriver à l'endroit sans jamais, sans aucune hésitation, j'arrive, tac, au bon endroit. » C'est mieux qu'un GPS. Alors c'est quoi la sgoula? Il dit « chaque fois que j'ai un doute, si je dois aller à gauche ou à droite, je pose la question à quelqu'un. » Et il me répond, et je sais comment arriver. Pas tout le monde le fait. Les gens, ils disent, je sens qu'il faut aller par la gauche. Et ils se plantent, d'accord? Chaque fois que tu as un doute, tu t'arrêtes, tu poses la question. Ça, c'est une vraie sgoula du Rav du Salat. Ah, t'aimes pas ça, hein? C'est pas irrationnel, oriental. David, ça lui plaît, voilà. Ça, c'est un truc droit, bien comme il faut. Quelqu'un qui a un café qui est chaud. Il veut le refroidir. Alors il y a un Tehilim, que s'il dit ce Tehilim en entier, le café, à la fin du Tehilim, il est tout froid. C'est le Tehilim 119. C'est un truc, j'ai essayé ce truc-là, j'ai essayé, ça marche très bien. Voilà, d'autres goulottes, est-ce que j'ai? Contre l'Aïnara aussi peut-être encore. C'est bien, contre l'Aïnara, d'avoir chez soi une plante qui s'appelle la Rouda, ici en Israël. Je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Rouda. Non, c'est une petite plante comme ça qui est très pratique contre le Aïnara. La meilleure sgoula pour avoir de la chance dans sa vie, c'est être droit. Quand on est droit, alors Dieu est droit avec nous et Dieu veut qu'on réussisse. Droit et pratiquer ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch.
On met un petit sachet de sel dans la poche et on se met à couiller de temps en temps, on a la chance.
Ah, connais pas. Je sais que par exemple, j'ai reçu 2-3 mails de gens qui sont ensorcelés. Alors, j'ai appelé des gens qui s'y connaissent et ils m'ont dit la meilleure chose contre l'ensorcellement, c'est quelqu'un qui pratique la Torah comme il se doit. Il fait Shabbat, il fait ses 3 prières par jour, il étudie tous les jours, il mange kasher, il fait la tahara. Tout ce qu'on doit faire, la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur lui. Il y a une histoire que m'a raconté Eliyahu Hassan, de quelqu'un qui était au sentier, je crois, et son concurrent est allé voir des gitans pour lui faire de la sorcellerie. Et le lendemain, il vient voir le marabout, le gitan, je sais pas, il dit, je veux pas, j'ai peur. Quoi? J'ai fait ce truc-là. Bon, j'ai vu la personne contre qui je dois faire cet ensorcellement. Je l'ai vu avec un truc sur la tête comme ça qui brillait terriblement. J'étais épouvanté. Voilà, rien que la mitzvah de tefillin. Quelqu'un qui fait les mitzvot basiques du judaïsme, comme il se faut bien, avec l'étude de Torah, parce que c'est basique du judaïsme, alors il est protégé normalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas dans la Gemara qu'on parle de choses d'ensorcellement et de magie, bon, mais c'était à des niveaux beaucoup plus hauts. Je vous dis une réponse actuelle de rabbin actuel. Mais je rappelle, et je termine avec cette chose-là très claire, il n'y a pas de meilleure segoula que de prier à Dieu du fond du cœur, de faire Shulchan Aruch, d'être un bon juif, direct avec Dieu. Ça peut aider les segoulotes, mais c'est qu'un petit coup de pouce à côté. D'accord? Pas plus que cela. Bah, ou Adonai, l'homme, mais...